C'est Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Bonjour à tous, bonjour à toutes également, bienvenue pour ce nouveau magazine d'Instant Sport, le 14e exactement. Votre émission d'actualité sportive qui décrypte, vous en avez l'habitude, les résultats lausériens, nationaux et internationaux. Nos trois chroniqueurs bien présents, bien au chaud avec Luc Respond de Midi Libre et du BCM. Bonjour Luc.
Bonjour tout le monde.
Alors toujours pas de match ce week-end pour le BCM?
Et non, c'est les vacances, prochain match le 7 mars.
Patrick Biancone, journaliste de la Lozère Nouvelle, qui nous annonçait en début de saison Marseille champion de France. Salut Patrick.
Salut à toutes et à tous.
Et on parlera de Ligue 1 de la deuxième partie de cette émission, bien entendu. Laurent Julien, grand fan de gymnastique rythmique et de cricket. Salut Laurent.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, pas d'invité parce que j'ai oublié d'en inviter. Voilà, désolé, ouais, c'est comme
ballot.
Ça. C'est ballot. On en aura la semaine prochaine, on va y remédier. Alors l'actualité sportive lausérienne, on va commencer par un match amical donc qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'évoquer. En volley-ball, le MVL se déplaçait au PUC 91 et perd 3-7 à 1. Le PUC, Luc, c'est l'équipe
c'est
de
Puy-Gouzon.
C'est à côté d'Albi.
Oui, c'est
dans le coin. Le Tarn.
Oui, dans le 91, c'est ça.
Dans le 81.
Non, c'est une équipe qui joue en National 2.
En National 2 et...
Qui jouera les play-offs de National 2.
Ce qui explique peut-être pourquoi Mende a perdu 3-7 à 1. Patrick, j'imagine, c'est simplement pour rester dans le rythme.
Le volley est un sport vraiment spécifique. Et quand tu interroges n'importe quel entraîneur ou passionné de ce sport, ils vont te dire qu'une coupure d'une semaine ou 15 jours, ben, ça peut entraîner complètement que l'équipe soit déréglée.
Donc, ouais. Ça, ce sont les entraîneurs qui disent ça. Peut-être les joueurs ont besoin aussi de repos.
Franchement, pour aussi bien les entraîneurs ici à Mende, mais c'est vrai que tu vas un peu de partout et tu as toujours le même discours au niveau de ce sport-là. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'en une semaine et 15 jours, au niveau des réglages, l'équipe peut complètement être chamboulée. Donc, ce qui explique que, voilà, ils ont besoin continuellement d'avoir des matchs amicaux, ce qui est moins le cas dans d'autres sports.
En basket, d'ailleurs, c'est moins le cas, Luc, ou parce que vous avez deux semaines de trêve, vous faites pas de match.
Oui, on avait même plus que ça. On a eu trois semaines de trêve, hein, même si normalement c'était quasiment un mois. Nous, c'est un peu compliqué de trouver des matchs amicaux pour tout avouer. Mais c'est vrai que du coup, on a plutôt axé les entraînements qu'on a fait là durant ces 15 jours, et notamment durant les vacances. Il y a effectivement beaucoup moins de monde. Elle a plutôt axé sur du jeu entre nous, sur des oppositions. Donc du coup, ça compense un peu. Ouais, pas trop la tactique, vraiment du jeu pour que tout le monde touche le ballon. Voilà.
Prendre du plaisir.
Exactement.
Ok, donc bon,
ça
voilà.
Ça fait du bien aussi des fois de couper un peu avec de la compète pour se retrouver un peu tranquille.
Bien sûr. Donc le MVL qui perd 3-7 à 1 et qui commencera sa phase de poule, tu sais, Patrick ?
Ce samedi. Alors je crois que c'est à 20h, hein, parce que... Les matchs de championnat de la première phase étaient à 20h30, mais là, pour les play-down, le coup d'envoi sera donné à 20h, donc au gymnase Piencourt, comme d'habitude.
Contre Caudry. Hein.
Voilà, contre Caudry. Alors Caudry, c'est une ville qui se situe dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors la spécificité de cette équipe, c'est que depuis maintenant de nombreuses années, elle est entre les mains, on peut le dire, d'un entraîneur polonais, donc je ne vous dirai pas le nom parce que j'aurais peur de... voilà, il y a beaucoup de Z, de W, etc.
Kasper Zak.
Donc ça a été un énorme joueur il y a une vingtaine d'années. Donc maintenant, il a plus de 40 ans. Et de temps en temps, il joue encore au poste de passeur. C'est un magicien. Donc la caractéristique de ce club, c'est qu'il y a quasiment à 90% que des Polonais dans l'équipe, puisqu'il est fait venir à flux régulier. Alors ça change chaque année, ça change même en cours d'intersaison. Donc tu sais même pas contre qui tu vas jouer. Tu sais que tu vas jouer contre des Polonais, mais tu sais même pas lesquels. Et donc équipe très dangereuse avec cet entraîneur qui a un caractère hyper fort, qui est capable de péter les plombs, de s'en prendre aux arbitres, aux adversaires, vraiment une ambiance particulière, quoi.
Ouais, ouais, non, à lui-même vrai. Aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, Caudry, bon, c'est un club que Mande avait joué, la première fois qu'ils étaient en N1. Et donc, bon, les clubs se connaissent bien. Et c'est vrai que c'est vraiment un club très, très particulier, avec des moyens pas énormes. Et puis, grâce à ce coach, ils arrivent quand même à continuer leur histoire. Et bon, c'est vraiment un club très particulier.
Mais ils ont de la vodka dans les gourdes.
Ouais, c'est un peu l'équipe 3 de l'AFL aussi, que des Polonais.
Ouais, c'est ça, exact. Et par contre, la phase retour, là, c'est un match aller-retour.
Oui, c'est un match aller-retour. Donc, tu vas jouer contre les 4 autres équipes de l'autre poule. Donc, ça va faire 8 matchs. Donc tu vas jouer contre Caudry, tu vas jouer contre le PUC, et là le PUC de Paris, donc c'est la réserve du Paris Volley qui évolue en Ligue A. Tu as aussi
Charenton 75 là, cette fois-ci.
Voilà, c'est la banlieue, quoi. Et tu as Charenton et puis tu as Villefranche-sur-Saône. Et donc voilà, tu as conservé tes points.
Et c'est le dernier qui descend.
Non, c'est les trois derniers qui descendent.
Trois derniers sur 8.
Ouais. Et donc voilà, donc d'où l'importance de ce premier match contre Caudry.
On l'a dit, pour l'instant, le MVL est sixième, hein, c'est ça ?
Ouais, le MVL, si ça s'arrêtait là, le MVL descendrait. Mm-hmm. Ah, ouais. Et donc tu joues contre Caudry, qui est juste devant toi. Donc toi, tu as 8 points, Caudry a 11. Donc si tu gagnes 3-0 ou 3-1, tu reviens au niveau de Caudry. Donc toute l'importance déjà capitale de ce match.
De ce premier match. Voilà. C'est quand même assez particulier de faire un championnat dans lequel tu ne vas pas jouer contre toutes les équipes.
C'est complètement hallucinant.
Ouais. Donc match super important, 20h à Piancourt ce samedi. Voilà. N'hésitez pas à aller encourager cette équipe du MVL. En rugby, le RCML perd à Conques 30-5. Alors 5 essais, 2 transformations, une pénalité pour Conques contre une pénalité pour le RCML. Donc même cause, même effet que la semaine dernière. 30-3, c'est ça. Un banc un peu court qui a faibli les Lozériens en fin de match. Donc le RCML qui résiste 13-3 pour Conques vers la 60e. Puis un carton blanc et une pluie d'essais. On revient.
C'est le même scénario que la semaine dernière. C'est vrai que Mande vraiment résiste énormément. Fait une bonne première mi-temps, une bonne entame de deuxième. Et puis après, il y a un fait de jeu comme la semaine dernière avec ce carton blanc. Et après, quand tu joues à 14 contre 15, vu les efforts que tu as fait pour justement tenir face aux assauts des adversaires, ben voilà, c'est la marée. Et bon, je ne sais pas si tu as pas dit le classement, mais tu pourras le dire. Ouais. Là maintenant, il y a un écart énorme avec l'avant-dernier, donc il reste plus que 3 matchs. Bon, la descente est quasiment consommée. Ouais, il faudra viser encore une fois un reportage. Ouais, alors un repêchage.
Se posera la question, est-ce la peine d'être repêché ? Enfin, voilà, est-ce que la solution, c'est pas finalement de descendre une bonne fois pour toutes et repartir après
on va reconstruire. Ouais, c'est une question à se poser, bien entendu. Ouais. Ouais. Tu disais, Mande dernier, 9e, 14 points. L'avant-dernier à 26 points, Rive d'Orbe, donc ouais, 12 points d'écart. Et 7e, Prat de Pic-Saint-Loup avec 32 points. Donc oui, ça fait beaucoup. Hein.
Ça fait beaucoup, beaucoup.
Peut-être qu'on pourrait inviter le président du club de rugby qui vient nous parler un petit peu du futur, comment il envisage le futur pour son club.
Ouais, c'est une bonne idée.
S'il nous écoute.
Ouais. S'il nous écoute.
Bah, d'autant que je pense qu'il doit rester 15 points à prendre, je pense, non ?
Ouais, il reste 15 points parce qu'il y a 3 matchs. Ouais. Mais bon, 15 points, ça veut dire qu'il faut que tu marques des bonus.
Il faut gagner tous les bonus.
Et que les autres
n'en prennent aucun.
Tu as gagné 2 matchs et donc la dernière victoire, c'était lors des 2 ou 3 premières journées. Donc tu imagines, tu restes sur, je sais pas moi, plus de 10 matchs. Match sans victoire, donc c'est quand même...
C'est un peu compliqué.
C'est lourd.
C'est compliqué, ouais. En handball, le MGC jouait pas ce week-end, donc match qui reprend...
J'ai une petite info, puisqu'on parle des matchs amicaux. Ouais. Le MGC a fait un match amical contre le Puy, a gagné de 2 points d'écart, donc ce qui est pas mal. Alors je sais pas du tout à quel niveau joue le Puy, je sais pas messieurs si vous
le savez. Puy, c'est en National 3, je crois.
Je sais pas.
Ils étaient dans leur poule en tout cas
il y a pas longtemps.
La dernière fois qu'ils étaient en National 3, donc.
Donc voilà, victoire à match amical, ce qui est bon pour la confiance. Et puis l'équipe 2 du MGC a fait un match amical contre l'équipe du Nord Lozère aussi, qu'on parle régulièrement sur ces ondes, qui s'est soldé par, je crois, un plus 6 pour le MGC, mais ça a été le match a été équilibré toute la partie. C'est à la fin que les Nord-Lozériens ont craqué.
D'accord. Les filles ont...
Les filles, pas de match.
Pas de match amical.
Elles attaquent la semaine prochaine contre le MUC.
Ah, contre le MUC 2. On ne sait pas trop, c'est même pas la même équipe. Hein.
Oui, de toute façon, ils sont
un bis.
Ouais. Ok, on suivra ça pour
la... Enfin, juste pour le petit clin d'œil, c'est quand même assez extraordinaire de se retrouver avec MUC 1 et MUC 2 dans la même poule. Ils sont pour l'instant en première et deuxième. Je crois.
Oui, ça aussi, c'est du n'importe quoi. De avoir deux équipes dans le même.
C'est grave.
Alors, ça sera contre le MUC 1. Voilà.
Ou deux.
Mais ça, a priori, c'est le 1.
Non, mais c'est vrai que par exemple, au football, ça peut pas arriver. Voilà, tu peux pas avoir deux équipes du même club dans la même poule. Ouais, c'est totalement interdit par les règlements.
Éthiquement, c'est quand même très très limite.
Ouais.
Bah oui, tu t'arranges pour qu'il y en ait un qui monte. C'est ce qui va se passer. D'ailleurs, vu que les deux équipes du MUC sont à la première et la deuxième place, ça m'étonnerait qu'ils jouent jusqu'au bout. L'équité.
Là aussi, samedi, tu as un match importantissime à la maison. Bon, là, je pense que c'est 20h30 à la Vernade. Bon, il faudra faire un choix entre le volley et le hand contre Cournon. Voilà. Ouais. Tu as dit le classement la semaine dernière, victoire impérative pour essayer justement de recoller sur Mélan qui est juste devant toi. Et Cournon qui est au milieu de tableau, mais qui paraît être une équipe abordable par rapport à Villeurbanne, par exemple, d'il y a 15 jours.
Ouais, absolument, ouais. Match extrêmement important. On le rappelle, le MGC qui est à l'avant-dernière place, donc c'est les deux derniers normalement qui descendent.
Les trois derniers normalement qui descendent.
Et qui s'est rapproché justement de l'avant-dernier et de ceux qui sont encore au-dessus. Donc oui, c'est vraiment, vraiment impératif. Beaucoup d'actualités footballistiques ce week-end. Alors on va un peu changer, on va parler de promotion de première division avec l'équipe 3 de l'AFL qui s'impose 4-0 à Chirac. Alors on n'en parle jamais de cette équipe 3, c'est le moment d'en parler.
Il paraît qu'il y a eu un très bon arbitrage d'ailleurs, notamment à la touche au cours de ce match-là.
Ouais, il paraît, ouais.
Voilà,
ouais.
Donc en fait, mon esprit club a fait que je me suis dévoué corps et âme à lâcher mes collègues et à faire arbitre de touche. Bon, personne n'a regretté mon choix, a priori.
Enfin, c'est-à-dire qu'ils étaient 14, ils avaient pris que 13 maillots. Donc...
Ouais, ils étaient plutôt contents même. Et donc voilà, un match plutôt serré dans l'entrejeu, même un poil dominé par l'équipe 3 de l'AFL, qui a la chance d'avoir des buteurs dans l'équipe. Donc du coup, 2-0 à la mi-temps avec des buts de Stéphane Salva et de Jérôme Ferrier. Et puis, petit fait de match en début de deuxième mi-temps où Ludovic Salva prend un carton rouge d'entrée à la 47e. Où un joueur de Chirac partait au but. Il y a fait un malin contre croque en jambe pour histoire de ralentir. Et puis, donc, amicalement, c'est pas méchant, mais voilà, il partait au but. Donc, petit carton rouge, ce qui est normal, personne n'a râlé, comme toujours. Et donc, on pensait que ça allait être plus dur de gérer cet avantage, mais finalement, non.
Deux buts de plus.
Donc voilà, un joli match. Il n'y a pas eu d'agressivité. Ça a été un bon match.
D'accord. Et l'équipe de l'AFL qui est en tête avec 40 points devant Aumont-Aubrac. Non, 40 points, c'est le nombre de points à ce moment-là de la saison. Devant Aumont-Aubrac, Chirac et l'équipe 2 du Val-d'Aunaise. On en parlait un peu en aparté avec Patrick en vous attendant, vu que vous êtes toujours en retard. L'AFL ne monte pas, refuse de monter l'équipe 3.
Oui, alors l'équipe 3,
il faut l'expliquer, sinon vous partez dans le Gard.
Voilà, ça fait un débat chaque année, on l'entend régulièrement quand on se déplace dans certains villages, où l'équipe n'a pas clairement le niveau de jouer en première division Lozère.
Gare-Lozère.
Si
tu montais, première division, Gare-Lozère.
Oui, voilà, si on montait. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Au-dessus de la première division, Lozère. Voilà,
c'est la promotion en première. Promotion en première, Lozère.
Mais il faut savoir qu'en fait, l'équipe est composée que de mecs qui ont quasiment 40 balais, qui ont joué tous au moins un DH, DHR, pour la plupart, donc qui a donné déjà des matchs dans le Gard, dans l'Hérault, voire plus haut pour certains. Et puis, c'est pas envisageable de...
T'as pas envie de descendre tous les week-ends,
non,
etc. Moi, je comprends ça. Et même Patrick...
Non, mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que dit Laurent, bien sûr, il connaît bien le sujet, puisqu'il joue dans cette équipe depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que l'AFL 3, cristallise un peu, quand même, pas les rancœurs, mais un peu la frustration des autres équipes, parce que elles dominent outrageusement ce championnat. Sur les 10 dernières années, peut-être que tu as pas été champion, quoi, une année, je crois que Marvejol 2, une fois, a fini devant vous. Et encore, il faut dire, oui, si, je pense quand même, mais vous trustez le sacre de champion. En Coupe d'Alu aussi, vous restez sur une série impressionnante de victoires en Coupe d'Alu. Donc, c'est vrai qu'on est en France, donc c'est vrai que ceux qui gagnent en France, voilà, c'est pas ceux qu'on estime le plus. Et c'est vrai que, dans les assemblées générales, Alors personne n'ose prendre la parole vraiment en assemblée, prendre le micro et dire oh, bon, on avait fait le 3, il nous casse les couilles, on n'en veut plus, il nous emmerde. Mais après, par contre, quand il y en a parti, tout ça, tout, ouais, ben là, il fait le 3, ça nous en. Ouais, ils font que gagner, ils nous mettent des tôles, on prend des 5, 6, 7, 0, ils gagnent tout. La Coupe d'Alu, on la joue plus parce que de toute façon, on est sûr de pas aller au bout. Bon, voilà, mais c'est toute non, une problématique. On va pas demander aussi à FL3 de s'affaiblir pour permettre aux autres de gagner. Mais bon, tu connais bien toutes ces situations. Et c'est vrai que même j'ai entendu plusieurs fois Enjolras, le président du district Garloser, dire ben, maintenant, on va prendre des sanctions contre ces clubs qui veulent plus monter. Ils finissent premiers, ils ont qu'à monter. Bon, après, bien sûr, ça n'aboutit à rien. Mais il y a quand même tout un débat qui existe dans le milieu football lausérien sur cette équipe.
Alors deux choses, déjà ils se sont affaiblis ce week-end vu que Laurent jouait pas. Ouais. Et autre, il faut préciser qu'ils sont pas beaucoup à vouloir monter quand même les clubs lausériens de cette division-là.
C'est sûr.
Oui, c'est pas. On parle chaque année
les quatre premiers sont sondés pour monter.
Bien sûr.
Aumont est déjà intéressé. Ils l'ont fait savoir en off, bien sûr que.
Bien sûr. Oui, tu as raison.
Ils veulent monter. Mais moi, ce que je trouve regrettable dans ces situations-là, c'est que quand les adversaires jouent contre nous, bon, ils sont surmotivés, c'est bien, mais il n'y a pas de coup. On est une équipe très joueuse, donc c'est pas la guerre des tranchées. Tu joues au foot, tu joues contre des mecs qui ont joué au ballon. Bon, moi, ça m'est arrivé dans la situation inverse de jouer contre des matchs contre des mecs qui ont vécu footballistique, et c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Là, tu joues contre des gamins qui ont 20 ans, qui s'entraînent quelquefois une à deux fois par semaine. Nous, on se pointe là le dimanche sans avoir fait de sport de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi?
Non, mais c'est sûr que bon, vous, de votre côté, voilà, y a rien à dire. Il faut pas non plus se culpabiliser. Mais bon, il y a quand même un débat qui agite le milieu du football lausérien depuis maintenant plusieurs années, quoi.
Après, c'est toute une problématique parce qu'on sait très bien qu'il y a des clubs qui veulent pas monter en première division Garloser pour diverses raisons. On sait très bien que les clubs gardois font pas non plus un forcing forcené pour que les clubs lausériens se retrouvent en première division et que du coup ça leur fasse des déplacements. Ouais. Bon, après c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Non, mais surtout qu'il y a des clubs, moi je vous dis franchement, il y a des clubs qui pourraient jouer en première division Garloser. Le plus bel exemple, c'est Saint-Georges-de-l'Évêché. Je me souviens quand Saint-Georges, justement, a fini, bon, était proche de la FL3. Et donc, il y a eu un débat énorme au sein du club de Saint-Georges pour savoir s'il fallait qu'ils acceptent ou pas la montée. Bon, finalement, ils y sont allés. Et bon, ça fait maintenant 3, 4, 5 ans. Et ils n'ont aucune difficulté pour se maintenir. Et même cette année, si tu regardes le classement de cette première division, là, dimanche, ils ont gagné 7 à 1. Ils se sont déplacés dans le Gard. Je crois, je sais même plus où c'était, ou à Brouzé, enfin, bon, bref. 7 à 1 à Saint-Mauzély, c'était. Ils gagnent 7 à 1 à Saint-Mauzély. Ils se retrouvent dans les 3-4 premiers. Ils peuvent encore même espérer monter en PHB. Donc, alors qu'au début, ils se faisaient une montagne de cette première division en disant on va se faire atomiser, on n'a pas le niveau, tout ça. Donc, il y a d'autres clubs lausériens qui pourraient tenter l'aventure. Après, c'est sûr que c'est toute une autre organisation. Mais au niveau du jeu, il y a des clubs lausériens qui peuvent évoluer en première division sans problème.
Ouais, mais c'est peut-être, comme tu dis, c'est peut-être pas qu'une question de jeu, c'est peut-être une question aussi d'organisation, de faire des déplacements.
Ben, il faut des dirigeants.
Et puis il faut une volonté des joueurs aussi, de faire des déplacements plus lointains, c'est sûr.
Ouais, et pour l'avoir fait, nous, avec le club de basket, quand on jouait dans le Gard, ça veut dire que t'es dimanche, tu n'es pas sur la route. Ça veut dire que t'as entre 2h et 2h30 de route.
À l'aller,
un match et 2h et 2h30 de route au retour. Pour peu qu'il y ait de la neige, pour peu que la route soit mauvaise, c'est pas toujours très agréable. Alors, encore vous, au foot, vous jouez à 13h, nous, les matchs étaient à 11h, donc voilà.
Oui. Non, mais c'est sûr, c'est un débat. On comprend toutes les équipes qui veulent pas aller dans ce championnat de Gard, parce que c'est compliqué.
Là, tu peux citer l'exemple du Val d'Aunaise cette année. Le Val d'Aunaise, eux, ils étaient en première division, et avant la première journée de championnat, ils ont écrit au district en disant nous, on veut pas jouer en première division, on veut jouer au niveau lausérien en promotion de première. Ils ont fait forfait avant le début de la saison, et donc ils jouent contre Laurent cette année. En plus, ils avaient joué il y a pas longtemps contre eux. Et donc, voilà. Donc, il y a aussi des choix de club.
Le Val d'Aunaise aussi, c'est fait suite à quelques mauvaises expériences aussi. Au niveau de la première division, Garloser, je sais que ça s'est pas toujours très bien passé pour eux. C'est vrai qu'on peut aussi dire qu'il n'y a pas nécessairement la même mentalité entre les clubs
losériens
et avec les clubs gardois. Il y a ça aussi, il y en a qui ne veulent pas,
bien sûr. Ça. Bien sûr. Ok, allez, on passe avec l'équipe 1, la division d'honneur. Deux buts des Sonba contre Latte à la 60e et à la 81e. Donc la FL gagne 2-0. C'est bon, Laurent, tu me suis jusque-là?
Ouais, nickel. Donc, je sais pas, Patrick, tu étais au match?
Non, Luc. Non, j'étais pas.
Luc était au match. Un temps glacial, Luc.
Ouais, il faisait froid, il faisait très froid. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a un peu empêché les joueurs de faire une très très bonne prestation. Parce que franchement, on va pas se voiler la face, c'était quand même pas le meilleur match de la saison. Mais bon, bah, l'AFL a finalement pas été trop inquiété. Il y a eu une paire d'occasions du côté de Latte. Et Alex Essomba qui met ses deux buts dans un très beau but.
Fadil n'était pas là.
Fadil était là, si. Fadil était là.
Un but à la sur un ballon relâché par Crespin le goal, ouais. Et puis sur une magnifique tête à la 80e. Ouais.
C'est le cousin germain de Crespin.
Ouais, c'est ça. Ballon relâché et Alex Essomba est prompt pour le reprendre.
Une faute de main, quoi. Voilà, une boulette du gardien.
C'est sur une frappe qui dévie, il aurait pu la bloquer effectivement. Et le deuxième qui doit rien à personne, par contre, c'est une magnifique tête qui va chercher très très haut. Enfin, il est très très grand, Alex aussi. Il va chercher très très haut, reste très longtemps en l'air pour la mettre au fond. Et c'est somme toute logique, hein, c'était, de ce que j'en ai vu.
Latte qui était au coude à coude, faut le rappeler, avec la FL, donc c'est un bon résultat.
Oui.
Narbonne et Pollan se sont imposés par un petit but à zéro, respectivement, contre Uzès et Perpignan, donc c'était important de gagner ce match.
Oui, pour revenir sur Essomba qui est transfiguré par rapport à l'année dernière et qui a été blessé de nombreuses semaines, et bon, d'ailleurs, qui a beaucoup manqué à cette attaque mandoise. Et donc là, il signe son vrai retour avec Mboup aussi, qui a été blessé tous les débuts de saison. La recrue, une recrue qui a joué contre Latte, hein, et qui a été énormément blessé puisqu'il s'est fait un claquage en préparation. Il est revenu un peu trop vite, il s'est reclaqué à la même cuisse. Hein, donc bon, là, cette fois, il a vraiment pris le temps de se soigner pour revenir. Et donc, c'est vrai que ça booste quand même cette attaque mandoise.
Après, ils ont maîtrisé la FL, ils ont plutôt maîtrisé leur sujet. Destin n'a pas été inquiété, si ce n'est sur une ou deux occasions, notamment un petit regain d'agressivité de Latte après le premier but de la FL et sur un coup franc plutôt bien tiré. Mais sinon, à part ça, ils n'ont pas eu énormément d'occasion.
Alors, toi qui étais au match, là, peut-être que tu peux nous parler plus de Ibrahima Mboup, puisqu'on ne le connaît pas bien encore, vu qu'il a souvent été blessé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match,
match. Bon technicien, c'est, je pense, un bon manieur de ballon. Pour ce que j'en ai vu, il n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'effectivement, il a eu un début de saison un peu compliqué. Mais je pense que quand il sera revenu à 100% et de ses moyens et dans l'intégration dans le système de jeu de l'AFL, je pense que ça peut être une très très bonne recrue.
Tout le monde loue ses qualités de vitesse.
Ouais, je pense que c'est un garçon.
C'est une fusée.
Un garçon, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et je pense que quand tu mets un ballon en profondeur, il y a plus d'un défenseur qui vont être surpris de le voir débarquer, je pense.
Ouais. Ouais, alors la FL, donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce dimanche, un match en retard contre Perpignan. Oui. Donc un match essentiel. On va faire un point sur le classement avec un Pollan qui est toujours en tête, 50 points, 15 matchs joués. Narbonne, 48 points, 16 matchs. La FL, 41 points, 14 matchs, donc 2 de moins que Narbonne et 1 de moins que Pollan. Bagnoles-Pont, 41 points comme Mende, mais avec 2 matchs de plus. La Grande Motte, 39 avec 15 matchs, donc un match de plus que la FL. Perpignan, 39, 16 matchs. Latte, 39, 16 matchs. Voilà, et après, ça se tient à 1-2 points. Extrêmement serré, on le dit chaque semaine, on le répète. Mais là, c'est vraiment, vraiment essentiel ce match de dimanche, Patrick.
Et oui, parce que c'est les matchs en retard. Donc, depuis le début, on dit, oui, il y a de l'écart, mais Mende a des matchs en moins. Donc là, ben voilà, Mende va jouer et les autres ne vont pas jouer. Donc, c'est le moment de faire l'écart. Enfin, de revenir sur
Narbonne.
Voilà. Et donc tu vas à l'extérieur à Perpignan, ça sera pas facile, mais Perpignan c'est une équipe de bas de tableau, donc voilà, pourquoi pas enchaîner, de toute façon il faut enchaîner maintenant, il faut que tu enchaînes des victoires, tu as quand même grillé tes jokers, donc il faut maintenant faire une série de 3-4 matchs victorieux.
Oui, et puis on se rappellera qu'en fin de saison, l'AFL recevra 4 fois sur ses 5 derniers matchs, donc ça peut aussi...
Même 5 fois sur les 6 derniers.
5 sur 6, donc ça peut aussi être un atout supplémentaire pour cette fin de saison.
Sachant que tous les matchs à domicile ont été gagnés pour l'instant,
ouais.
Oui. En championnat. Mais bon...
Et là, contre l'Arte, il y avait quand même un esprit revanchard, parce que tu avais perdu au match aller là-bas, dans des conditions quand même assez particulières, et bon, tout le monde disait qu'une réception des dirigeants de l'Arte, qui était quand même vraiment plus que limite dans l'état d'esprit et puis dans la façon dont tu peux te comporter avec une équipe au niveau de la façon dont tu leur offres après bon l'eau tout ça etc. Enfin, un peu le savoir-vivre, donc à ce niveau-là ça avait été vraiment réduit à son minimum. Et puis pendant le match beaucoup de coups des joueurs blessés. Mandois qui s'étaient blessés, un carton rouge pour Benjamin Almeiras, donc il y avait quand même un petit Roland dans la bouche des Mandois et ils voulaient absolument laver cette défaite du match aller encore plus avec l'attitude aussi bien des joueurs que des dirigeants de l'Atte.
Bon, vous les anciens, vous les supporters marseillais, vous savez qui est le coach de l'Atte?
Non.
Non.
André Basile, qui est un ancien joueur de
l'OM. L'avant-centre éphémère de l'OM, mais c'est vrai.
Il a été formé là-bas. Il a fait partie des minots, hein, ceux qui jouaient en D2 avec l'OM.
Excellent.
Nous, on préfère Basile Bouli.
Ouais. Joueur FMR, Basile, il y a eu beaucoup. Le buteur Marseille. Contre le PSG, hein, il y a 15 jours aussi. Des joueurs francs, là, qui rentrent en pleine ulule.
Magnifique. Ouais.
Allez, plus de mal pour l'équipe réserve.
Tirer, en plus.
Ouais. S'il vous plaît, messieurs, plus de mal pour l'équipe réserve qui jouait contre le leader à l'extérieur. La FL en division honneur régionale s'incline logiquement 4-0. À Frontignan, on ne va pas se mentir, on s'attendait à une défaite. Hein.
Ouais. Bah, là, 3-0 à la mi-temps, la messe était dite. Hein.
2-0 au bout d'un quart d'heure.
Ouais.
Ouais. Non, mais il y a un problème avec cette équipe. Moi, je dis, enfin, je sais pas, peut-être que je mets le pied dans le plat, mais je dis franchement, à mon avis, il y a un problème avec cette équipe, parce que quand tu vois les joueurs quand même qui étaient alignés à Frontignan, bon, Frontignan, c'est les leaders, certes, tu peux perdre, mais quand tu prends 2-0 au bout d'un quart d'heure et 3-0 à la mi-temps, avec les joueurs qui composaient, bon, t'as quand même Benjamin Almeiras qui jouait, t'as quand même Johan Robert qui jouait, enfin, bon, voilà, t'as Barandon,
Brunel,
bon, c'est des joueurs qui ont fait de la DH, qui ont été titulaires en DH, qui ont fait des saisons entières, donc il y a des joueurs quand même, hein, il faut pas dire là t'as pas une équipe décimée, je trouve que c'est incompréhensible.
Actuellement, certes, il y a des problèmes comme tu dis, puisque déjà un des deux coachs a donné sa démission dans la semaine, Alexandre Moreno, qui était a priori en désaccord avec des dirigeants ou un dirigeant, je sais pas, et qui a préféré prendre du recul. Donc du coup, c'est Cédric Bonal qui s'en occupe pour l'instant tout seul. Le club est à la recherche d'un autre binôme, parce que professionnellement, Cédric peut pas travailler le soir puisqu'il travaille dans la restauration et entraîner l'équipe, notamment. Le dimanche, c'est pareil. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, pas que sur le terrain actuellement pour cette équipe.
Et oui, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on sent quand même... Avec le potentiel qu'il y a, tu peux pas être si mal classé et surtout prendre des scores aussi larges et puis surtout des buts aussi rapidement. Parce que bon, contre 7, tu prends un but aussi au bout de 5 minutes. Mmh. Bon, tu joues à la maison, tu reviens quand même, mais bon, tu arraches ce match nul 1-1, mais enfin, on sent qu'il y a des débuts de match qui sont quand même vachement compliqués et ça dénote quand même quelque chose au niveau de l'état d'esprit.
C'est certainement extra sportif, ouais.
Je pense.
Ouais. Mais les quelques échos que j'ai eu du match, certes c'est lourd 4-0, mais le contenu était pas si mauvais. Mais bon, ça relativise très très peu la défaite quand même.
Ouais, ça fait pas remonter plus que ça le moral. Au classement, Mende 11e, 27 points. Montpellier Atlas 12e, 24. Nîmes Lassalien 13e, 20 points. Donc avant-dernier, Mende qui.
Atlas qui a un match de moins.
Match de moins qui peut remonter s'il gagne.
Et a priori, il y aura 3 descentes. Il risque d'y avoir 3 descentes.
Aïe. Oui. Donc il va falloir
pour revenir à des poules à 12.
À 12. D'accord.
Il va falloir se ressaisir au plus vite. Hein. Avant de parler du résultat de Marvejols, alors on l'évoquait avec Patrick dans cette dernière émission, c'est arrivé en Coupe Gare Lozère Senior, quart de finale ce dimanche, le derby de Lozère avec Marvejols qui reçoit l'AFL.
Eh oui, c'est vrai que les deux clubs voulaient pas se rencontrer. Ou alors plus tard, voilà, c'est raté. Mais bon, un quart de finale explosif. Bon, je pense qu'il y aura du monde dans les tribunes. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le football lozérien. parce que bon là c'est deux équipes qui sont parmi les meilleures du département. Voilà, ça fait un peu d'animation, c'est pas mal quoi.
Sachant que la FL joue dimanche à Perpignan, voilà, match en
donc
retard.
Donc a priori, voilà. Est-ce que la réserve, donc, c'est, ce que c'est la réserve qui va jouer a priori.
A priori, ça sera l'équipe réserve qui va jouer.
Parce qu'ils ont pas de match, il y a pas de match de.
Non, il y a pas de match.
Bon, mais voilà, donc c'est la réserve qui
la réserve qui joue déjà ce mercredi. Si vous savez pas quoi faire, messieurs, mercredi à Florac, enfin contre la STT en Coupe Lozère.
Le huitième de finale.
Ouais, je crois que c'est le premier tour même.
Huitième de finale, c'est ça. Ouais.
Ben ça va faire des matchs.
Je crois que c'est le quart de finale de l'année d'avant.
Ouais.
D'accord.
Donc voilà, pour ce match explosif, ça sera l'équipe réserve. Donc du coup, un peu plus de chance pour Marvejol de l'emporter.
Ouais, Marvejol en plus sur une bonne dynamique qui a gagné 3-1 contre Monoblé. Ouais. 3 buts à 1, but de Diabaté 12e, Alaise 45e, Mbaye 46e. Par contre, au classement, Marvejol est légèrement décroché. Je pensais qu'ils étaient plus près. On était resté sur des bons résultats. Et là, ils sont 6e.
Ouais, mais, mais tu remarques, regarde ça, tu as 5 points de retard sur le premier.
On est d'accord.
Tu as 4 points d'avance sur le relégable. C'est hallucinant.
Il suffit de faire un match nul et finalement, même à l'extérieur, ça reste.
Il faut que les équipes devant toi aussi ne prennent pas de points.
Ce qui fait mal à Marvejol, c'est cette défaite à domicile contre Rochefort. Il y a 15 jours, 3 semaines. Ah, puis, bon, voilà. Sinon, il rajoute toi 3 points. Si tu avais battu Rochefort, tu serais le 3e. Voilà,
ouais, et puis il y a un début de saison qui a été un peu difficile aussi. Les
joueurs qui sont arrivés
pas en retard, c'est dommage.
Et pour revenir à la Coupe Garlozère, Marvejol, je pense pas qu'ils soient favoris parce qu'ils sont quand même campés à chat. Laurent.
Ils seront pas favoris, certes, au niveau de la hiérarchie.
Mais sur la dynamique.
Il est politique. Il met la pression sur les autres clubs. T'as vu ça, Patrick, on
est Non, mais c'est.
Ah, il est bon,
c'est
il est
réaliste.
Bon.
Il faut.
Quelqu'un a eu des échos de ce match de Marvejol contre Monoblé, 3 buts à 1.
Tranquille. Voilà, vraiment. C'est vrai que le problème de Marvejol, c'est qu'il se crée énormément d'occasions et il manque d'efficacité. Et là, contre Monoblé, il y a eu plus d'efficacité que d'habitude, et donc ce qui explique ces 3 buts assez tôt dans le match. Et bon, c'est vrai qu'après, c'est plus facile, quand tu marques tôt, c'est plus facile après pour gérer les matchs.
Bon, visiblement, ça s'est pas très très bien fini, ce match-là. Il y a eu un peu quelques cafouillages, notamment un but accepté.
Qui n'y était pas.
C'est pas trop. C'est le but de Monoblé.
Que fait l'arbitre de touche?
On sait pas. Alors visiblement, les échos que j'en ai eu, c'est que l'arbitre elle a pas accepté tout de suite, puis il est revenu sur sa décision. Enfin bref,
ça a rien changé de toute façon.
Non, mais ça a un peu tendu les esprits en fin de match.
D'accord. Honneur Auvergne. Honneur Auvergne, 12e journée. Le NL confirme sa victoire de l'aller, sa place de leader en s'imposant à Martre de Veyre 2-0, doublé de Brunel à la 54e et 57e. Au classement, l'Anton de Nord-Lozère, 35 points premier, Clermont 3, 32 points, Lambde 29 points et le quatrième à 29 points également. 6 points d'avance sur le troisième, le quatrième, 3 sur le second. Le NL qui poursuit sa route en avant, Patrick.
Et oui, il faut des séries, match nul la semaine dernière, voilà. Bon, là, une victoire. Donc, ça fait 2 matchs à l'extérieur, une victoire, un match nul. Bon, pour une reprise après une longue trêve, puisqu'en Auvergne, c'est vrai, avec les conditions climatiques, il y a une grosse coupure. Que dire de plus? Sinon, il faut qu'il continue. Après, il va y avoir des matchs à domicile. Mais bon, c'est bien parti. On sent quand même Nord-Lozère vraiment costaud et bon, bien lancé pour retrouver la DH l'année prochaine.
Voilà, le prochain match de l'ENL, c'est dans 15 jours avec la réception du 10e Commentry. Donc, a priori, un match largement à la portée des Nord-Lozériens.
Voilà, pour continuer à bien s'ancrer en tête de ce championnat.
Ok, l'équipe Nord-Lozère. On va parler de foot en salle, donc de futsal, Luc.
De futsal, absolument, puisque ce dimanche, donc on sera le 1er mars, la DDFL a été chargée d'organiser la finale du challenge régional de futsal féminin. Donc ça se disputera dimanche à partir de 10h au gymnase Piancourt à Mende. C'est une finale qui réunira 8 équipes, dont 2 lozériennes, Serré, Vendre, Montagnac, Briolet, Carcassonne, Perpignan-Bavernais qui viendra jouer les filles, les garçons.
Et alors les deux clubs lozériens,
c'est qui? Les deux clubs lozériens, c'est Chirac et l'entente Gévaudan. Voilà, puisque le district avait la possibilité d'inscrire 2 équipes et que a priori dans le Gard, il n'y a pas eu de challenge gardois pour qualifier une équipe. Donc c'est les 2 équipes lozériennes Chirac qui a fini première de la déqualification lozérienne et l'entente du Gévaudan qui représenteront le district Gard-Lozère dans ce challenge-là. Voilà, et ça commence donc, on l'a dit, le dimanche 1er mars à 10h à Piancourt.
Ok, c'est gratuit ?
C'est gratuit, voilà. Et puis le futsal, c'est quand même une discipline assez spectaculaire qui se joue à 5 contre 5. Voilà. Donc,
qui va toujours de l'avant, toujours, il y a toujours des actions, toujours des actions, jamais de repos. C'est très ludique.
Voilà, ouais, c'est très intéressant.
C'est intéressant et on n'en voit pas tous les jours en Lozère, surtout du féminin.
Oui, absolument. Donc si vous avez envie de voir un peu, d'être au chaud et de voir du football féminin.
Parfait. Allez-y. Excellent. Mais on va se donner rendez-vous et on va y aller.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail fait par la DDFL, en particulier par Florian Couder, qui est le CDFA affilié à la Lozère, voilà, pour développer non seulement le football féminin, mais le football tout court. Et c'est vrai que le futsal, il y a un gros boulot. Et bon, si bien que Mende soit récompensé par l'organisation, c'est la première fois que ça arrive ici en Lozère, soit récompensé par l'organisation de cet événement.
Ouais. On va finir cette actualité sportive lozérienne avec un mot sur le semi-marathon Marvejols-Mende, car ça y est, les inscriptions pour la prochaine édition sont lancées. Le dimanche 26 juillet, il y aura plus d'infos sur le site internet www.marvejols-mende.org.
Allez, le semi-marathon qui a décalé sa date par rapport au Tour de France, hein, puisque normalement c'était prévu ce week-end-là. Mais
et oui, mais bon, c'est compliqué.
C'est compliqué de faire
passer des coureurs et des vélos et au même endroit.
Bon, sinon, ça fait un run and bike.
Voilà, exactement. Et c'est pas le but. Allez, du rock, cher à Laurent, on va écouter les Rolling Stones de suite.
I'm
Vous allez arrêter avec cet arbitrage, il était très bien hier, on en parlera tout à l'heure.
Turpin, tu nous as gavé.
Allez, on va parler d'abord de la Ligue des Champions. Paris-Chelsea, match nul 1 partout, le Real qui gagne à Schalke 2-0, FC Bâle, FC Porto 1 partout. Shakhtar Donetsk, Bayern de Munich 0-0. Alors on va parler aujourd'hui uniquement de Paris. Vous aviez tous les trois pronostiqué une victoire du Paris Saint-Germain, une victoire facile, c'est évident, disait notre ami Laurent. Patrick, tu nous as dit la semaine dernière que toi tu les sentais bien. Alors il n'y a pas eu de victoire parisienne, mais on a vu un PSG comme totalement différent de celui du championnat de France. Un PSG qui, sans un grand Thibaut Courtois, on peut le dire, méritait largement de gagner.
Oui, il y a eu un pari surprenant qui a vraiment pris à la gorge cette équipe de Chelsea, surtout en début de deuxième mi-temps. Et donc, il a mérité vraiment plus de buts et une victoire plus large, au moins du niveau de celle de l'année dernière, puisqu'il y avait 3-1. Ça aurait été un maximum. Quand tu vois ce but de Chelsea totalement improbable, un défenseur qui centre, un autre défenseur qui fait une aile de pigeon et un troisième défenseur qui met une tête. Bon,
sur leur seul tir du match. Hein.
Sur le seul tir du match, c'est exact. Voilà, dommage pour Paris, mais Paris, c'est vrai, a fait honneur à son rang. Et, bon, pourquoi pas un miracle au match retour, mais ça sera très, très, très dur.
Je voulais juste parler du coaching de Laurent Blanc, parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé, on l'a souvent décrié, et là, pour le coup, je pense que ce match, c'est aussi une belle réussite au niveau de son coaching. Déjà, en faisant jouer David Luiz au milieu de terrain pour faire face à toutes ses blessures. Et puis je trouve que, voilà, au niveau du coaching, il a été plutôt performant ce coup-là.
Alors moi, je vous avouerai que quand j'ai vu la compo David Luiz en milieu, que ça fait un an qu'il n'y a pas joué, contre ses anciens partenaires, et les mobilettes qu'il y a en face, là, je me suis dit, mon pari pronostic à la radio va être effaucé, quoi. Et finalement, d'après tous les observateurs, il a fait son match. Il a été le joueur qui a eu le plus de passes réussies dans le match. Je crois que c'est 80 en tout. Seulement 6 fautes. Donc, je pense que Thiago Motta va peut-être avoir du mal à retrouver sa place s'il n'y a pas de problème d'effectif, de blessé en défense centrale.
Surtout que ça permet de faire jouer Marquinhos, qui est quand même énorme.
Et qui a fait un super match.
Et là où est intéressant David Luiz comparé à Thiago Motta, c'est qu'il joue beaucoup de l'avant. Parce que Motta, c'est un ralentisseur de jeu incroyable. Alors que là, David Luiz, il écartait le jeu, il jouait vers l'avant. Ouais. Impact physique énorme. Bon, voilà, bravo Laurent Blanc.
Puis il y a aussi un joueur qui a retrouvé son vrai niveau, c'est Thiago Silva. En défense centrale,
ouais, énorme.
Qui est redevenu le Thiago Silva, le meilleur défenseur du monde qu'il a été.
N'exagère pas quand même.
Il a été il y a quelques mois.
Parce qu'il y a quand même Souleymane Diawara à Nice qui concourt.
C'est vrai qu'il fait presque regretter qu'on n'ait pas gardé. C'est vrai qu'entre Fanny, Morel et Diawara.
Et Hilton.
C'était génial. Ah oui, à Loé. Voilà, ouais, super.
Ouais, génial. On va se dépêcher de parler parce que Laurent a un rendez-vous galant, donc il faut qu'on se dépêche. Cette semaine, Juventus, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelone, Arsenal, Monaco et Bayer Leverkusen, Atlético Madrid. Donc on va pronostiqué sur deux matchs, bien entendu, Monaco qui se déplace à Arsenal. Mais tout d'abord, sur le choc de ces huitièmes de finale, Manchester City-Barcelone, Patrick.
2-0 pour City. Barcelone, voilà, un peu moins bien. Ils ont perdu en plus un match capital chez eux là, contre Malaga ce week-end. Et puis City, 5-0 contre Newcastle. Mais bon, City, quand même, il y a du lourd.
Luc.
Je dirais 3-1 pour City, parce que je vois quand même Messi en marquer un, même s'il est tout seul, il peut marquer un.
Laurent.
0-0.
0-0, allez, je dis 1 pour City, moi. 2-1, comme ça, c'est entre vos deux pronostics. Allez, plus dur, Arsenal qui reçoit Monaco, on va tourner dans l'autre sens,
allez,
Laurent.
Arsenal, 2-1 pour Arsenal, avec un but de Monaco à l'extérieur qui va leur porter chance.
Luc,
je suis bien embêté parce que c'est ce que je voulais dire. Alors,
mais tu peux dire pareil.
Je veux dire 2-1 parce que Arsenal vendange beaucoup et prend souvent des buts. Donc, 2-1.
Patrick.
0-0 parce que Subasic va tout arrêter. Il va y avoir 3 poteaux. Giroud va tout rater. Et puis Monaco va jouer le Catenaccio comme il sait si bien le faire. Donc, 0-0.
Ouais, c'est justement parce qu'il y a Giroud que Arsenal va gagner 3-0.
Avec un Jérémy Toulalan replacé en défense centrale. Qui sera certainement son poste pour finir sa carrière, ce jeune homme.
Voilà. Surtout qu'il risque de re-signer à Monaco. Le russe là, qui s'occupe du club tous les jours, Vassilev, hier soir, l'a dit qu'il avait engagé les négociations.
Long contrat.
Pour refaire signer Toulan.
Voilà, merci Laurent. Ben, merci. Tu diras bonjour à la demoiselle que tu vas retrouver. Exactement. Qui est mannequin, non, c'est ça?
Oui, ouais, mannequin suédoise.
Suédoise, tu vas faire des photos
elle
d'ailleurs.
Fait du beach.
Suédoise, tu es dur.
D'ailleurs, c'est la nouvelle recrue pour le futsal de dimanche. Voilà. C'est pour ça qu'il est obligé un peu d'y expliquer les rudiments de ce jeu.
De ce jeu. Ouais. De l'arbitrage de touche.
Au revoir à tout le monde.
Ciao Laurent, à lundi prochain. Merci. Allez, on poursuit avec la Ligue 1, ça tombe bien, on va parler de l'OM. Il n'y a que des gens qui connaissent le foot ici. Et on va pouvoir continuer. La Ligue 1, principale observation. Petit à petit, l'OM décroche les résultats. Nice 0, Monaco 1, Paris 3, Toulouse 1, Rennes, Bordeaux 1 partout, Caen 4, Lens 1, Bastia 2, Lille 1, Evian remis contre Lorient. Le grand match ce week-end, Guingamp qui perd à domicile 2-0 contre Montpellier, Reims-Metz 0-0, Lyon 1, Nantes 0 et Saint-Etienne hier, Marseille 2 partout. En haut du classement, on le rappelle, Lyon 54 points, Paris 52, Marseille 50, Monaco 43. On s'arrête là. Et en bas, c'est serré, hein, c'est extrêmement serré. Toulouse 28 points et 17e. 18e, Evian, Thonon 26 points avec un match de moins. Lens et Metz 19, 20e, 22 points tous les deux. Ouais, l'enseignement. Paris qui revient un peu, qui gagne, donc qui reste accroché. Lyon qui continue sa belle série. Et Marseille, Marseille qui perd du terrain encore. Hein.
Oui, qui perd du terrain, mais contre Reims, but à la 90e, contre Saint-Etienne, but à la 91e. Si tu avais mieux géré ces deux fins de match, ça te faisait 4 points de plus. Et donc, tu serais de ex aequo avec Lyon à la première place. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Hier, on a vu un match vivant. Je pense qu'il a intéressé, qui a mis un peu le stade Geoffroy Guichard, le fameux chaudron, un peu en ébullition. Donc, ça, c'est bien. Et puis, bon... contre Reims, des changements de Bielsa un peu incompréhensibles qui, à mon avis, avaient coûté cette victoire. Et puis là, tu vois, comme ça va vite, hein, le football. Puis là, des changements complètement hallucinants aussi à la 60e.
Hein.
Et puis, ça aboutit un changement de physionomie du match total. Et tu aurais pu emporter ce match grâce à ces changements, même si, moi, je le répète, je ne vais pas m'acharner sur lui, mais je ne vois pas comment tu peux... non seulement gagner des matchs, mais en plus être champion de France avec un garçon comme Alloué.
Pour les gens qui n'ont pas vu le match, pour les auditeurs, c'est quoi les changements à la 60e?
Il fait sortir Gignac qui était malade pour faire rentrer Batshuayi. Il fait rentrer Alessandrini et il fait sortir Romao. Donc ça veut dire que Ayou redescend au milieu de terrain. Et puis il fait sortir Djadjedje parce qu'il a pris un jaune pour faire rentrer Alloué. Alors aujourd'hui, si tu lis les commentaires, Bielsa fait son mea culpa en disant que il a demandé à Djadjedje si ça allait bien, parce que Djadjedje est blessé à la cuisse depuis un certain moment. Et donc il a cru comprendre que Djadjedje lui a dit qu'il était blessé. Donc c'est pour ça qu'il a fait sortir. Et au final, Djadjedje aurait très bien pu finir le match. Et donc il dit que il a fait une erreur, une grossière erreur, et que ça, il reconnaît que ça coûte le match, parce que en substance, tu comprends qu'Aloé, et c'est vrai, a été mais il suffisait pour en plus, il tombait sur des fusées chaque fois à l'aile, il suffisait à l'attaquant de Saint-Etienne, il prenait le ballon, il le poussait, et puis voilà, sur 10 mètres, il prend 7 mètres, quoi. Donc c'était hallucinant, quoi.
Alors, d'une part, c'est quand même pas très cool pour mettre un jeune joueur en confiance de reconnaître ça, mais bon, ça après, voilà, après, à ce rythme-là, je suis pas certain que Djadjedje aurait fini le match parce qu'il avait pris un carton jaune, et que je pense que le rouge était pas très loin non plus. Donc bon, c'était peut-être finalement pas une si mauvaise décision de le faire sortir que ça de le faire sortir.
Non, le problème c'est que t'as personne derrière si
c'est Alloué.
Après le problème là c'est que du coup il a mis Alloué qui est un peu effectivement qui est un peu court, un peu juste pour en arriver là. Par contre, grosse rentrée de Michy Batshuayi, le Belge, qui a mis 55 secondes en tout entre le moment où il a posé le pied sur le terrain et le moment où il a marqué, 25 secondes en fait entre le moment où le ballon a été remis en jeu et le moment où il a marqué, et qui signe un deuxième, son doublé ensuite. Voilà, il a fait ça, c'est pour le coup, c'est un vrai coup de poker.
Lui-même a dit qu'il était au fond du trou depuis plusieurs semaines, et c'est vrai qu'on s'en était rendu compte parce qu'il avait fait un super match contre Lille, qui était le dernier match en décembre, juste avant la trêve, et c'est vrai que depuis le début janvier, bon, il a fait aussi bien quand il était titulaire que quand il est rentré sur le terrain. Il était vraiment fantomatique, et donc il a reconnu en étant très fair play qu'il était au fond du trou et qu'il avait fait une bonne semaine d'entraînement juste avant ce match de Saint-Etienne. Et donc voilà, ça l'avait remis un peu dans le coup et il en avait besoin et Marseille en avait besoin. Et c'est vrai que quand il joue comme ça, on sent quand même un potentiel incroyable chez ce joueur.
Un mec qui a mis 22 buts la saison dernière en première division avec Anderlecht, c'est quand même pas mal. Hein. Après, effectivement, c'est ce dont on parle, c'est un peu les limites de la méthode Bielsa qui s'appuie très fortement sur, on va dire, sur 11 joueurs qui ne sortent quasiment pas de son 11 type.
Gros pressing fatigant.
Mais après, je pense que pour un joueur comme Batshuayi, te dire que quasiment quoi que tu fasses à l'entraînement et quoi que tu fasses pendant tes matchs, tu seras condamné à rester sur le banc. Ça doit être compliqué à vivre aussi. On peut comprendre, notamment sur des attaquants, où c'est vraiment des postes qui sont un peu plus le psychologique prend beaucoup plus de place. Je pense que c'est compliqué à gérer aussi.
Mais le jour du match ou la veille du match, il y a un article dans l'équipe. Moi, je peux te dire, je n'ai jamais vu des comme ça, où quand même, on annonce qu'il y a un entraînement qui est prévu le vendredi, et sur les 11 joueurs potentiellement titulaires, il y a un seul qui se présente en tenue pour s'entraîner. C'est André Ayew. Donc les 10 autres, où ils ont mal au dos, où ils ont mal au genou, où ils ont mal à la cuisse, où ils ont un début de grippe, alors ils préfèrent rester tranquillement à l'intérieur des bâtiments de la commanderie pour faire du vélo ou pour soulever 2-3 haltères. Et dans tout l'article, tu lis qu'il y a une fracture maintenant monumentale entre justement les joueurs et l'entraîneur, avec un ras-le-bol sur la façon dont non seulement ils s'entraînent, mais l'intensité, donc ils veulent plus courir, tout ça. Et puis bon, finalement, donc tu te dis que ça va être la marée contre les Verts. Et tu perds 1-0 et finalement tu reviens, et donc tu te rends compte quand même que y a pas la situation est moins dramatique que ça au niveau de l'ambiance, aussi bien entre joueurs que entre l'entraîneur et les joueurs.
Alors par contre, se posera la question de la poursuite de l'aventure marseillaise avec Bielsa ou pas.
Ils vont reprendre Bob, ça sera très bien.
Antonetti,
c'est vrai qu'Antonetti a pas de club et qu'il est régulièrement annoncé du côté de l'OM. Ouais.
Voilà.
Alors un entraîneur, lui, qui fait l'unanimité, c'est celui de l'Atlético Madrid. On va dire un mot sur Griezmann quand même, qui marque ses 13e et 14e buts cette saison. Il a 14 buts en 24 matchs, soit un ratio d'un peu plus d'un but tous les deux matchs. Et ce qui est complètement fou, c'est que Griezmann, au classement des buteurs de la Liga, est 4e, ouais, derrière Ronaldo, Messi et Neymar. Et
voilà,
et
ça veut tout dire.
Le meilleur buteur à égalité avec Messi, le meilleur buteur sur 2015.
Sur 2015, il a, je vais te dire, 8 buts en 12 matchs.
Ouais. Et bien, si je suis l'émir du Qatar, je prends Griezmann et Pogba, quoi que ça coûte.
Il y a le problème de fair-play financier.
Parce que c'est vrai que c'est un joueur, on attendait au tournant, parce qu'il est passé d'un club, la Real Sociedad, à un club un peu plus huppé qui est l'Atlético Madrid.
Il a eu un peu de mal au début, on se posait
des questions, et au final, ça y est, il carbure. Voilà.
Bah après, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on se rend compte que Griezmann a 22 ans, je crois, Varane à peu près le même âge, Pogba, j'en oublie d'autres. Mais
non, il sera champion d'Europe en 2016.
Ouais, je pense que la relève française, alors autant on a pu connaître...
Oui, Benzema a encore marqué ce week-end, a fait un gros match.
Je pense que si tout se passe bien, si les petits cochons ne les mangent pas, tous ces jeunes-là, on pourrait avoir une très très belle génération. Toi, tu parles de la Coupe d'Europe 2016, et moi, je dis que la Coupe du Monde, elle pourrait être...
Non, puis il y en a d'autres qui vont éclore.
Il y en a d'autres qui vont éclore.
Tu le sens, tu vois qu'il y a comme Fekir, on ne sait pas s'il va choisir l'Algérie ou la France.
Si tu as lu l'interview dans l'équipe ce week-end, il lance quand même un message en disant si Didier Deschamps... Alors, il dit que la sélection qu'il va, il va choisir là, maintenant, et que ce sera définitif. C'est-à-dire que même s'il il peut changer, tant qu'il n'y a pas eu de match officiel, c'est-à-dire les matchs amicaux ne sont pas des matchs considérés comme des matchs officiels, il a dit que la sélection qu'il honorera en premier, il ne changera pas. Et derrière, il dit si Didier Deschamps m'appelle en mars, ça sera difficile de refuser. Donc bon, ça ressemble quand même à un message.
Il y a la Casette aussi.
Exactement.
Il y a la Casette. Il y a Sanson de Montpellier qui est vraiment un excellent jeune.
C'est vrai.
Il y a de quoi. Il y a de la relève. Sachant que les titulaires sont pas très vieux non plus.
Oui. Mais comme Giroud, je sais pas quel âge il a, mais
28 ans.
Ben, Valbena, il vient qu'il peut faire largement championnat d'Europe en 2016.
Ouais, Valbena. Ouais. Puis derrière les gardiens, on a ce qu'il faut aussi. Hein.
Moi, j'ai été étonné du match de Nasri hein, contre Newcastle. Il y a un match extraordinaire. Donc on l'aime ou on l'aime pas ce joueur. Ah,
mais
hors
c'est
du
clair.
Terrain,
mais après, c'est extra sportif. Hein. Bon, Deschamps. Ouais. Deschamps, voilà, il a toujours fait comme ça. Hein. Celui qui rentre pas dans le moule, il a aucune chance de, il a aucune chance de jouer. Il fait pareil avec ses dirigeants. C'est-à-dire que dès qu'il a un dirigeant qui essaie de lui expliquer, il faut que tu mettes celui-là arrière plutôt que milieu ou attaquant, ben il dit c'est bon, je m'en vais. Il a fait ça à la Juventus, il a fait ça à Marseille, il a fait ça, voilà, de partout où il est passé. Et, bon, c'est une façon de manager et je pense qu'il a raison.
Ouais, et puis le problème avec Nasri, c'est que tu parles de sa relation avec Deschamps, mais ça a été pareil avec Blanc, ça a été pareil avec deux, trois sélectionneurs qui lui ont donné sa chance.
Ouais.
Voilà, on se rend compte qu'en équipe de France, je suis désolé, mais pour moi,
il n'a jamais été
imposé de façon indiscutable.
Exact. Luc, en basket, une info, un nouveau Français en NBA depuis la nuit dernière, Geoffrey Lauvergne, qui a été battu avec les Denver Nuggets contre Oklahoma City, 94-119. Le Français a marqué 8 points, 3 rebonds, 18 minutes, un beau début pour ce beau joueur français.
C'est bien, il a résilié son contrat, je crois que c'était avec le Khimki Moscou, le club russe qu'il avait rejoint en début de saison, pareil, hein, on lui avait promis monts et merveilles et finalement il se contentait de quelques minutes par match. Il avait été drafté par les Denver Nuggets, je crois, il y a 2 ans. Il avait choisi de rester en Europe pour continuer à jouer. Continue à jouer en Euroleague, à part faire sa formation. C'est bien parce que Geoffrey Lauvergne, c'est pas nécessairement un joueur caractéristique de la NBA. C'est pas un grand gabarit énorme comme l'aime la NBA, surtout pour jouer à l'intérieur. Mais c'est bien parce que il va jouer à Denver, le club qui a révélé notamment Evan Fournier qui joue cette année à Orlando. Bah, ça fait un joueur de plus en NBA, ça fait un joueur de plus à l'intérieur qui va se former et qui va, je l'espère, avoir du temps de jeu et de l'expérience.
Sa première 18 minutes, c'est bien. Hein.
Ça, ouais, alors à NBA, ça peut tourner très vite. Hein. Tu peux être dans un 5 majeur, jouer 20 minutes par match pendant un mois et te retrouver au bout du banc et rentrer. Une minute parce que le coach a décidé qu'il allait changer de tactique et qu'il comptait plus sur toi. Ça peut aller très très vite, mais voilà, ça va donner des migraines à Vincent Collet, au coach de l'équipe de France, quand il va falloir choisir les joueurs pour le prochain Euro. J'aimerais avoir les mêmes problèmes que lui finalement.
Ouais, c'est sûr. En plus, sur l'Auvergne, il a une histoire un peu spéciale parce que quand il jouait en France, je crois à Chalon-sur-Saône, son entraîneur disait qu'il n'était pas assez bon pour jouer un championnat français. Et son entraîneur à l'époque, c'était Grégoire Beugnot, qui a été un des plus grands joueurs et un des plus grands entraîneurs de l'histoire du basket français. Alors c'est vrai que tu disais que ça tourne vite. Là, effectivement, ça a tourné vite parce qu'il est allé en Espagne, il a fait un chantier, il est allé en Russie. Bon, il a signé un contrat. Énorme quand c'est les contrats en Russie, et puis maintenant il se retrouve en NBA et puis il joue 18 minutes pour son premier match, donc c'est vrai que les choses changent beaucoup en sport.
Après, Grégoire Beugnot, c'est aussi un entraîneur qui manie beaucoup l'intox et je pense que c'était aussi une manière de piquer son joueur.
Allez, on va parler de ski parce qu'il y a beaucoup d'infos. L'équipe de France de vitesse battue par la Nouvelle-Zélande a finalement profité de la disqualification.
C'est du cyclisme.
Par contre, hein. On va parler de cyclisme, pardon. Il y a
sur
beaucoup
piste.
D'infos. Sur piste. Ouais. Parce qu'il y a du ski aussi, mais c'est cyclisme. Oui. Ils remportent le titre mondial à Saint-Quentin en Yvelines. Donc les Néo-Zélandais qui ont été déclassés pour un passage de relais hors zone. En individuel, championnat du monde de la vitesse, Grégory Bauger, on l'attendait, il est là, est champion.
Quatrième titre,
exactement. Et le duo français Kokar-Kniewski a remporté la médaille d'or dans la course à l'américaine ce dimanche au championnat du monde de Saint-Quentin en Yvelines également. Donc,
Et Jack Pervis aussi.
Ouais, Pervis.
Pervis qui a fait 2 titres, en Kérine et au kilomètre.
7 podiums, 5 médailles d'or.
Ouais, très bien. Ouais.
Très bien, parce que maintenant, c'est vrai qu'au niveau des outils, on était un peu vraiment défavorisés avec très peu de vélodromes en plus modernes. Bon, voilà, enfin, on a réussi à construire un bâtiment tout neuf à Saint-Quentin, comme tu le dis, où les coureurs, eh bien, ils s'entraînent tous les jours sur cette piste ultra moderne avec des bâtiments autour. Et donc là, c'était organisé les championnats du monde en France avec un public survolté, une ambiance digne d'un stade de football. Donc ça a galvanisé les coureurs et d'excellents résultats, en particulier Superbis qui avait fait un triplé l'année dernière, là une doublée cette année. Bon, voilà, c'est la piste française repart sur le bon pied après avoir connu quand même un petit creux où c'était la Grande-Bretagne qui dominait outrageusement cette discipline vraiment très dure.
Il y a une grande tradition de pistards français et une très très bonne école école française. D'ailleurs, Brian Cocard qui a gagné en américaine est aussi sur route maintenant puisqu'il enchaîne
avec Europcar.
Ouais, voilà, c'est ça, avec Europcar, il est...
C'est ça.
Ouais. Allez, on finit avec une très belle histoire, celle de Jason Lamy-Chappuis, le champion olympique 2010. Avec son équipe, le relais qui obtient la médaille de bronze en Coupe du Monde. Hein.
Il avait aussi une médaille de bronze en individuel.
En individuel, mais là, en Coupe du Monde, en relais, c'est une histoire de 12 ans entre lui et ses relayeurs. C'est fou, ça, 12 ans dans la même équipe.
Et, ouais.
Et on termine avec cette médaille de bronze, je trouve ça très beau.
Là aussi, une discipline un peu spéciale, hein, vraiment difficile à comprendre pour ceux qui sont très, pas là-dedans. Tu fais d'abord du saut, après tu t'arrêtes, hein, et après tu fais du ski de fond. Alors après, suivant le nombre de mètres que tu as fait un saut, c'est converti en temps, alors tu pars avec du retard.
C'est
des relais, mais c'est vrai que c'est palpitant parce qu'il y a quand même un suspense qui peut être prenant. Et c'est vrai que c'est beau à voir parce qu'en général, c'est bien filmé. Et donc c'est un sport à connaître et surtout à voir. Et bon, en plus on a ce champion d'exception qui est plutôt en fin de carrière maintenant, et donc c'est intéressant pour la France, quoi.
Ouais, c'est vrai que les deux disciplines, que ce soit le combiné nordique ou le biathlon, c'est vraiment des disciplines particulières et qui n'ont pas énormément de licenciés, mais où la France réussit quand même à chaque fois de très bons résultats.
Voilà, c'est tout pour cette émission, merci les gars d'être là.
Bah, merci à vous.
Il ne fallait pas qu'elle dure plus longtemps parce que sinon tu te serais retrouvé tout seul.
Et oui, c'est pour ça. Mais on vous promet, Laurent restera là toute l'émission la prochaine fois. On le dit à nos auditrices surtout qui nous envoient des messages en disant voilà. On adore.
J'espère qu'elles n'ont pas coupé le poste
non.
Avec son départ quand même.
Non.
Bon, ça va, tu me rassures.
On parlait du match nul de l'OM donc bon, sont restés.
Ça va.
Allez, ciao les gars, merci.
Merci à toi. Prochain. Merci à tout le monde.
Les Fleet John au couloir numéro 2, allez les Fleet, c'est parti pour les Fleet John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, supermarket, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde, au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.